Mieux penser pour mieux agir en Méditerranée. Une table ronde organisée par l'AMAR en partenariat avec la MAIF et le soutien du Télégraphe. Émission enregistrée le 4 novembre 2022. Ce premier podcast donne la parole à Nicolas Reul, chercheur en océanographie physique au laboratoire d'océanographie physique et spatiale IFREMER.
Ce soir, je vais vous parler de la température de surface des océans et surtout de ce qui se passe en Méditerranée. Et c'est un paramètre clé parce qu'il contrôle les échanges de chaleur entre l'océan et l'atmosphère. Et il faut savoir que la plus grande partie du réchauffement de l'atmosphère, elle est due à la partie qui est réémise par la surface de la Terre, pas forcément par l'émission directe du Soleil. C'est le réchauffement de la Terre qui réchauffe l'atmosphère au premier ordre. Et c'est un paramètre, en français on l'appelle TSM, température de surface de la mer, et c'est un indicateur clé du changement climatique, et il a été classifié comme une variable climatique essentielle par les spécialistes. En fait, on mesure la température en mer depuis la fin du 19e siècle, avec des navires océanographiques ou des navires marchands. On prenait des seaux et on mettait des thermomètres dedans, on mesurait la température. Mais ça a changé. En fait, maintenant, on a un ensemble de capteurs qui sont soit des flotteurs qui dérivent à la surface des océans, soit des flotteurs qui plongent, qui font des profils sur les 2000 premiers mètres, qui remontent à la surface, qui envoient leurs informations par satellite, qu'on appelle les flotteurs Argo. À partir de ces mesures, on peut déduire un petit peu de ce qui se passe sur la surface de l'océan, mais c'est très ponctuel. Et la raison pour laquelle on a lancé des satellites, c'était pour avoir, il y a trois raisons, hein, on appelle ça les 3C, la couverture globale. Toutes les régions des océans peuvent être observées très rapidement avec des satellites. La continuité, on peut avoir ça pendant un grand nombre d'années. Et aussi la consistance, ou la cohérence, parce que ces satellites voient à peu près les mêmes choses et de manière assez stable. Donc ça nous permet de voir des évolutions, par exemple, climatiques de ces mesures. Pour cela, on a un ensemble d'outils, une constellation de satellites qui ont été lancés depuis les années 60. Alors les premiers satellites, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait un, deux, trois, ils étaient lancés tous les 10 ans. Et le pic de lancement, ça a été dans les années 80-90. Et il faut savoir que l'Europe, aujourd'hui, c'est le premier lanceur de satellites d'observation de la Terre. Depuis les 10 dernières années, on a lancé 25 satellites d'observation de la Terre en Europe. Et parmi tous ces satellites que vous voyez, ils mesurent tous la température de surface de la mer. Il y a deux types de capteurs, ce que l'on appelle les radiomètres infrarouges. Donc eux, en fait, ils mesurent les radiations en infrarouge de la surface de la mer. Et ils ne voient pas à travers les nuages, c'est leur inconvénient, mais par contre, ils voient avec une très bonne résolution au sol, sur la surface, avec à peu près tous les 500 mètres, 1 km, on a une mesure. Il y a d'autres instruments qu'on appelle des radiomètres micro-ondes. Ils mesurent l'émission micro-ondes de la surface de la mer, qui dépend de la température. Et cela, ça traverse les nuages, c'est très peu affecté par les nuages. Mais par contre, on a une mesure tous les 50, 70 km. Donc ça ne permet pas de voir les faibles variations entre un rocher et un autre, entre le Cap Sissier et la rade de Toulon, par exemple. Mais grâce à toutes ces mesures, si on les combine, on arrive quasiment journalièrement à avoir une vision globale de la température de la mer et de ses variations. Alors, grâce à toutes ces mesures, là, vous voyez un graphe qui montre l'évolution de la température globale de la température de la mer. La partie bleue, c'est à partir du moment où on a eu les satellites. Et on voit que depuis la fin des années 80, il y a une forte montée de la température de surface de l'eau. En tout cas, depuis qu'on a ces observations satellites. Et quand on regarde les tendances de réchauffement de la mer à l'échelle globale, donc c'est ce que l'on peut observer à partir de ces mesures, on voit qu'il y a des spots différents où il y a des très forts réchauffements. Par exemple, au large du Japon ou en Arctique, hein, vous savez, au nord de l'Atlantique, il y a un réchauffement très fort aujourd'hui. Et aussi en mer Méditerranée, qui est un hotspot, tu en parlais tout à l'heure Jean-Renan, du changement climatique, parce que la mer se réchauffe extrêmement vite, beaucoup plus vite qu'aux autres endroits, avec une tendance de 0,4-0,7 degrés par dizaine d'années, quoi. Ce qui est beaucoup. Ce réchauffement, il n'est pas qu'en mer Méditerranée, il est aussi sur les terres. Ici, vous avez un graphe qui montre le réchauffement sur les sols. Donc plus c'est rouge, plus les taux de réchauffement sont importants. Donc on voit que la partie sud de la Méditerranée, elle se réchauffe énormément. Et à droite, vous voyez le nombre de nuits qui sont dites tropicales, c'est-à-dire où la température reste supérieure à 20 degrés. Et les jours de canicule supérieurs à 35 degrés. Donc c'est combiné dans ces graphes. Et on voit que les projections sur la fin du 21e siècle C'est très fort, quoi. On va effectivement être sujet à beaucoup de canicules sur Terre et en mer. Donc sur la mer Méditerranée, ce que l'on observe, là c'est une tendance sur, entre 1985 et 2008, donc là c'est uniquement basé sur des observations satellites qu'on connaît bien, qui sont assez stables, parce qu'avant on avait quelques mesures dans des ports, dans des endroits, donc c'était un peu compliqué. Et on voit que la zone de la Méditerranée qui réchauffe le plus, c'est la partie est en général, notamment au sud de la Crète et de Chypre et de Rhodes. C'est là où on a des très très forts taux de réchauffement. On s'est rendu compte que c'est pas aussi simple que ça, ça dépend des cadres sur lesquels on observe le phénomène. Par exemple, entre 1985 et 1990, c'était la partie chez nous qui se réchauffait plus que la partie à l'est. Donc c'est pas aussi simple que l'on croit, c'est pas d'un coup tout le bassin qui se réchauffe. Il y a des phénomènes qui font varier les taux de réchauffement en mer Méditerranée. Et en fait, une des raisons principales de ce réchauffement, c'est lié à des phénomènes climatiques à grande échelle. C'est ce qu'on appelle l'oscillation atlantique multidécennale, des variations de température qui apparaissent sur des échelles de 40 à 80 ans et qui sont sur le domaine que vous voyez au nord de l'Atlantique. Quand la température monte dans cet endroit, ça fait aussi chauffer la Méditerranée. Parce que l'atmosphère se réchauffe, parce que la circulation des vents change, il y a plusieurs raisons. À partir de la fin des années 2000, on est dans une zone où la température au nord de l'Atlantique est devenue très positive et ça fait que la Méditerranée est plus chaude en ce moment. Donc le climat, c'est pas un truc régulier, c'est des oscillations autour de phénomènes à grande échelle qui durent longtemps. C'est assez complexe. Et il y a aussi une deuxième source en Méditerranée, c'est le fait que comme l'océan Atlantique se réchauffe, et c'est une mer fermée la Méditerranée, la principale source d'eau extérieure, c'est l'eau Atlantique qui rentre par le détroit de Gibraltar. Et cette eau est plus chaude. Et du coup, la mer Méditerranée, vous voyez ici une carte des courants qui montre qu'il y a une circulation qui suit un peu la côte de l'Afrique, qui fait tout le tour et qui revient par chez nous et ressort par l'Atlantique. L'évaporation joue un énorme rôle dans le réchauffement, mais également le réchauffement par les eaux, qui sont les seules sources de ressources de la mer en Méditerranée, les eaux atlantiques. Et il y a un phénomène qui est associé avec ce réchauffement en moyenne, c'est ce qu'on appelle les vagues de chaleur océaniques ou les canicules océaniques. En gros, une canicule, c'est quand vous avez la courbe bleue, ça c'est la moyenne climatologique sur des années et des années. Et puis, par saison, il y a des variations, c'est la courbe verte. On choisit une limite, on dit, tiens, si ça dépasse un seuil de 0,5 degrés par rapport à la limite climatologique, c'est la courbe verte. Et si jamais il y a un événement de température qui dépasse ce seuil pendant une certaine durée et une certaine intensité, on appelle ça une vague de chaleur océanique ou une canicule. Un exemple, en juillet 2022, donc cet été, vous avez une énorme anomalie de température de plus 4-5 degrés sur 60 mètres de fond, qui a réchauffé tout le bassin occidental. Donc ça, voilà, c'est typiquement ce genre d'événement qu'on surveille. Combien de fois ça arrive, quelle intensité, quelle durée ils ont, et comment ça impacte aussi la vie marine. Donc il y a des gens qui ont travaillé dessus. Là, j'ai représenté des travaux de gens qui ont fait ces études. On voit que la carte en haut à droite, elle montre là où apparaissent ces événements et leur intensité. Donc vous voyez que plus c'est rouge, c'est là où les vagues de chaleur ou les canicules marines sont importantes. On s'aperçoit qu'il y a une espèce d'amplification en ce moment de ces phénomènes-là, notamment au nord, dans notre région, et évidemment à l'est de la Méditerranée qui se réchauffe beaucoup, avec plus de canicules longues, avec des durées, des intensités importantes, des écarts de température qui sont très importants. L'impact de ces phénomènes sur la vie marine, mes collègues en ont parlé tout à l'heure, si elles durent longtemps et qu'elles ont une intensité importante, elles peuvent avoir un fort impact sur la mortalité de tout un tas d'espèces. Les gorgones, on en a parlé, les coraux rouges notamment. Pas seulement les algues et les herbiers, là j'ai donné un exemple sur le graphe en bas, là vous voyez une vague de chaleur et on est passé d'une forêt de kelp, ce sont des algues un peu larges qu'il y a au fond. Il y a une vague de chaleur océanique, là, la partie rouge, et d'un coup on change complètement de substrat au fond de la mer à cause de ces phénomènes-là. Donc ça modifie fortement l'écologie du système, ces vagues de chaleur. Et elles peuvent avoir des conséquences parce que ces coraux, une fois qu'ils sont morts, ils sont morts, ou alors il faut faire des actions. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est en fait, c'est compliqué. Moi, je suis plutôt à répondre en amont de tout ce que vous parlez, c'est-à-dire je ne suis pas dans l'agir. On donne des informations, on donne des nouvelles données. On essaie de répondre à la question de Bachung, donnez-moi des nouvelles données, pour qu'on ait une vision un petit peu claire là-dessus. Et on se rend compte qu'en fait, ces vagues de canicule marine, elles dépendent de plein de paramètres. Ça dépend de leurs échelles, leur durée. Est-ce qu'elles s'étendent sur tout l'Atlantique Nord ou toute la Méditerranée, ou est-ce qu'elles sont toutes petites à un endroit donné? Et ça va dépendre de tout un tas de phénomènes. Il y a des processus climatiques longs, il y a le réchauffement lié à l'action anthropogénique qui a de manière évidente un impact, hein, parce que c'est l'effet de serre qui fait qu'on a un réchauffement. Donc il ne faut pas se leurrer, ça c'est la source principale du problème, mais il y a aussi toute une variabilité autour de ça, et étudier ces variabilités c'est complexe, ça dépend des échelles des phénomènes. À un moment j'ai travaillé sur un projet qui s'appelait les petites îles de Méditerranée, et on essayait de regarder pourquoi derrière le rocher les populations gorgones mouraient et pas de l'autre côté, quoi. Ou pourquoi les lézards, ils n'arrivaient plus à traverser un endroit, ou pourquoi les tortues, ils mouraient. Il y a des phénomènes qui sont très locaux, et puis il y a des phénomènes à grande échelle. Et bah, voilà, un peu comprendre tout ça, c'est notre métier. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire.
À perte de vue des lacs gelés, qu'un jour je jurais d'enjamber. À perte de vue des défilés, des filles élevées, des défis relevés. Des prix décernés à tes yeux. À perte de vue d'un de ligne des grues, les pieds dans la boue qui eût cru qu'un jour nos amours déborderaient. Fasse oublier aux ajusteurs la clé. Plus de boulons pour réparer la brute épaisse, ma pute à cœur ouvert. Cuirassés, pas assez d'écrevisses pour une fricassée. Donnez-moi de nouvelles données, donnez-moi de nouvelles données, donnez-moi de nouvelles données, donnez-moi de nouvelles données, donnez-moi de nouvelles données. Donnez-moi de nouvelles données. À perte de vue du déjà vécu se précipite à mes trousses. Quand dit le héron, il en sait long. Quand dit l'éolienne, elle me fait l'eau. Voix d'eau dans la coque du Poséidon. Hamac perronné, est-ce un espadon, l'œuvre d'un esturgeon, ou un concours de circonstances qu'aurait engendré ce paysage désolé, de n'être pas resté. Donnez-moi de nouvelles données, donnez-moi de nouvelles données. Donnez-moi de nouvelles données. Donnez-moi de nouvelles données. Donnez-moi de nouvelles données. À perte de vue des lacs gelés, qu'un jour j'ai juré d'enjamber. Perte de vue des défilés, des filles à lever, des défis à relever. Des prix décernés à tes yeux. Des prix décernés.